Alors, est-ce que vous faites des rêves? Oui, tout le temps. Ah, bah écoute, hier j'allais vous parler de Jésus. Je vais aller reparler de Jésus. Et j'avais relu Épître aux Éphésiens. Ah ben non, ce matin je me suis réveillée et j'étais devant une grande église en train de parler. Enfin, j'essayais parce que en fait tout le monde papotait. Et je dis, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'arrivait pas à mettre un mot. Et en fait, dans mon rêve, j'ai rêvé que justement, on arrive. Bon, il y avait le pasteur, il y avait des autres gens. Et voilà, on a rappelé un peu à l'ordre. Et moi, j'ai démarré mon message. Et je dis, mais voilà, on aime bien parler. On aime bien parler. Voilà, nous à l'église après, on finit le culte à midi et quart, mais on n'est pas parti, hein. On est encore là souvent une demi-heure après. Et qu'est-ce qu'on a souvent, ce que nous sommes en train de faire, c'est ben, parler. Nous parlons. Bon, je pense que c'est bien. Ça montre que dans cette église, nous avons besoin de d'être en communion, de nous communiquer, de communiquer les uns avec les autres. On ne part pas disant, voilà, ouf, j'ai mon repas de midi, c'est plus important que les gens, bon, je me sauve. Il y en a, bien sûr, qui doivent respecter les familles qui restent à la maison. Mais pour nous qui n'avons pas ces contraintes, ben, nous aimons bien rester. Alors, pourquoi je parle de ça? Je dis, qu'est-ce qu'elle va encore nous faire? Mais moi, c'est comme ça qu'il m'a montré. Mais je vais vous parler de la capacité d'avoir une conversation. Mais avec Dieu. Alors, ce qui m'a frappé dans mon rêve, c'est en fait que les gens, parfois, en parlent. Et moi, j'ai ce défaut-là. Hein, donc, on peut le dire. Donc, j'essaie de faire attention. On peut parler, mais sans laisser à l'autre la possibilité d'y placer un mot. Donc, je le dis en sachant que c'est un de mes défauts, hein, parfois. Parce que j'ai tellement de pensées, je fais... Et puis, bon, j'essaie de me discipliner, hein, je vous écoute. Hein. Mais je crois que parfois on fait ça avec Dieu. Donc, quand nous prions, en fait, nous sommes... Voilà, on parle comme ça. Et on ne prend pas le temps de l'écouter. Et en même temps, c'est cette capacité de prier, de parler avec Dieu et de l'entendre, parce que la prière, c'est ça, c'est une conversation, c'est dans les deux sens. Et je vais juste, voilà, pour vous montrer que vraiment c'est dans la Bible, je vous invite à voir Genèse chapitre 3. Bon, il y a bien sûr le verset clé pour nous qui fait, ça met un principe de base très important pour nous en tant que croyants. C'est Genèse 1, verset 27. Et ça rejoint tout à fait le bioéthique. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Alors ce verset, il est simple, mais en même temps, il est tellement profond. Parce qu'il veut dire que la race humaine est uniquement dans les êtres humains, sur la terre, nous retrouvons l'image de Dieu. Alors, bon, bien sûr, ça veut dire que l'homme, il a beaucoup de responsabilités. Dieu a remis à lui la capacité de gouverner la terre. Il a remis à l'homme la capacité de créer. Donc, entre une femme et un homme, bon, il y a des rapports sexuels, bien sûr. Et ensuite, mais il y a quelque chose qui est donné, qui n'est pas donné aux animaux. Ça veut dire que l'enfant qui est né, il a un esprit aussi. Il a la capacité de communier avec Dieu. Bien sûr, après la chute, bon, le don a été perdu. Il a été malmené, cette capacité de communier avec Dieu. Mais chaque être humain naît avec la capacité d'être restauré et de retrouver cette communion avec Dieu. Alors c'est une communion spirituelle, bien sûr. C'est par l'esprit. Et quand je dis esprit, attention, ce n'est pas l'esprit intelligent, c'est l'esprit qui est plus profond. C'est l'esprit qui est la vie de Dieu et la capacité de communiquer avec Dieu. Alors beaucoup de gens, malheureusement, vivent sans cet aspect de leur capacité, parce qu'ils sont pas encore, ou ils n'ont pas encore choisi d'être restaurés à cette communion. Mais c'est ça, à la base, la prière. S'il n'y avait pas ça, nous pouvons pas prier. Alors moi, ce que j'aime bien, le verset, cette conversation, voilà, on va écouter une conversation. Bon, c'est un peu triste, parce que c'est la conversation que Dieu, il a avec Adam et Ève après la chute. Mais ça nous indique l'intimité. Genèse 3, verset 8. Et j'aime beaucoup ce verset. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Bon, on ne peut pas être religieux là, je pense. Hein? Et Dieu, il balade. Alors, c'est extraordinaire. Et le souffle, c'est... Bon, j'imagine le jardin d'Éden, c'était dans un endroit pas tout à fait comme notre climat. C'était plus... comme l'Afrique du Nord, bon maintenant il y en a qui disent Afrique du Sud, mais je crois que c'est Moyen-Orient, hein. C'est ce qu'on indique les Écritures. Mais le Moyen-Orient, il fait très chaud la journée. L'après-midi, on fait la sieste, hein. En tout cas en été. Et après vient ce souffle rafraîchissant, cette brise du soir. Et avec la brise du soir arrive la présence de Dieu. Il se promène. Pourquoi il se promène dans le jardin? Pourquoi il va? Il a tous les cieux. Il a sans doute des endroits merveilleux que nous n'avons pas encore visités. Pourquoi il vient dans ce jardin-là? Parce qu'il souhaite rencontrer Adam et Ève. Il souhaite s'entretenir avec eux. Alors pour moi, ça c'est la prière, c'est ça, c'est cette conversation vraiment intime, dans le calme, et Ellie l'expérimente aussi, hein. Il y a juste la voix douce qui arrive, après beaucoup d'événements cataclysmiques, il y a la voix douce qui arrive, et ça c'est le Seigneur. Bon, il est dans les autres choses aussi, mais véritablement, cette voix intime qui est pour nous, elle est douce. Mais on a du mal. On a du mal parce que voyons ce qui se passe. Le Seigneur appela l'homme et lui demandait « Où es-tu ?» L'homme répondit « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. » Alors soyons honnêtes, parfois l'idée de Dieu, ça nous fait peur. C'est parce que nous sommes après la chute et ça, cette intimité vraiment profonde, il faut quand même confronter un peu ça au départ. Hein? Parce que Dieu est un feu dévorant, il est saint et nous le sentons, nous sommes nus et nous ne pouvons pas apparaître devant lui comme ça. Bon, mais c'est bien de passer par là, je crois. Parce que si nous ne passons pas par là, nous allons dire bon Dieu et on va le mettre de côté. Non, il faut qu'on reconnaisse cette difficulté qu'on a pour trouver qu'il y a une solution. Donc, je vais juste faire le sommaire là. C'est que Dieu nous a donné une capacité de communier avec lui. Mais c'était perdu ou c'était abîmé à la chute. parce qu'il y avait la désobéissance. Et nous, donc Dieu dans sa sagesse, il a relégué tout le monde au même niveau. Nous avons tous besoin de nous repentir pour restaurer la communion. Donc il n'y a personne qui est meilleur que l'autre, nous sommes tous pareils. Donc je trouve ça c'est bien, c'est juste, équitable. Tout le monde, on est dans la même galère, voilà. Parce que Dieu veut nous sortir de là. Alors Dieu commence à faire ce travail de restaurer cette communion avec l'homme, parce que pour lui c'est vraiment important. Nous sommes importants pour lui. Il nous aime, il nous a créés pour être en communion avec lui. Donc, il va tout faire pour que ça puisse être rétabli. Alors d'abord, nous avons vu les alliances à travers l'Ancien Testament. Donc je ne vais pas revenir sur ça. Si vous voulez, c'est enregistré, donc vous pouvez voir Jacques pour les modalités, pour les enregistrements. Donc je vous encourage quand même de revoir ça si vous n'avez pas été là pour les alliances, parce que c'est des bases, c'est des principes importants. Bon, Dieu commence, il commence à restaurer cette intimité, cette communion à travers des alliances. Il établit plusieurs alliances et chaque fois, il révèle un peu plus de son projet. Bon, la première alliance, il y a plusieurs, mais il établit une alliance avec Abraham où il dit quand même, attention, je vais faire quelque chose pour toutes les nations. Donc ça, c'est un début dans la pensée de Dieu. Il va rétablir la communion avec tous les peuples. Ensuite, il commence avec un peuple, la nation d'Israël. Donc il établit l'alliance avec la nation d'Israël, mais c'est dans la perspective que dans le temps qu'il a choisi, il va restaurer la communion avec tous les peuples. Mais il va servir de la nation d'Israël. Et il va nous enseigner beaucoup de principes de comment Dieu agit. Bon, ces l'alliance dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas réussi à 100%. Ils n'ont pas réussi à restaurer ce que Dieu voulait vraiment faire. Parce que, rappelons-nous, Jean-Luc l'a dit ce matin, attention de ne pas être religieux. Alors religieux, c'est l'apparence, c'est ce qui est extérieur. Et la nation d'Israël, malheureusement, ils sont tombés un peu parfois dans ça, parfois dans la rébellion. Ils sont loin d'être parfaits. Personne n'est parfait. Je suis d'accord. Mais l'alliance aussi, Dieu dit, bah, cette alliance-là, elle n'aboutit pas à ce que je veux. Elle est partielle. Elle prépare, mais elle n'est pas encore complète. Alors l'alliance parfaite, voilà, il l'établit à travers Jésus-Christ. Attention, je dis ça en sachant que l'alliance, ce que nous vivons aujourd'hui, n'est pas encore parfait. D'accord? Nous sommes sur l'alliance parfaite, mais elle n'est pas encore achevée. Elle sera achevée quand nous sommes dans les cieux, et là, il n'y aura que le royaume de Dieu. À ce moment-là, là, voilà, la nouvelle alliance établie sera complètement accomplie. Voilà, nous avançons maintenant, nous rentrons, tout est fait, mais nous sommes encore dans un monde où il y a bien des choses qui ne sont pas encore sous l'autorité de Dieu, dans le sens qu'ils se sont soumis à l'autorité de Dieu. Ça va venir, mais nous ne sommes pas encore. Mais l'alliance éternelle, c'est bon, elle est établie. Cette alliance dans le sang de Jésus, par Jésus, ça ne bouge plus. C'est l'alliance, la dernière alliance que Dieu établit avec toute l'humanité à travers Jésus. Donc quand nous venons à prier, pourquoi c'est important ce que je viens de dire? Elle aime bien les alliances, cette fille. Elle est toujours en train de parler. C'est vrai, même là, je parle de ça. Mais pourquoi c'est important? Parce que si nous ne comprenons pas profondément l'alliance sur laquelle nous sommes liés à Dieu, nous n'allons pas comprendre non plus la prière. Parce que la prière véritable, elle est basée sur sur cette alliance, sur cet accord. Donc, quand maintenant je prie au nom de Jésus-Christ, je me base sur les promesses de Dieu. C'est pas ce que je pense. C'est pas que moi, ce que moi je vais persuader Dieu de faire quelque chose. C'est parce que il a choisi d'établir l'alliance et je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à ses promesses. Donc, si je viens avec cette attitude vers la prière, ça va être différent que si je viens, je sais pas si Dieu va me répondre ou non. Je sais pas. Oui, mais mes amis, on devrait savoir parce qu'il y a l'alliance. Non seulement il y a l'alliance qui nous donne cette confiance, il a tout un enseignement pour comment nous approcher de Dieu. Parce que si je dis je suis en Jésus-Christ, mais en réalité, j'ai des choses que j'ai pas réglées dans ma vie, ben, je n'approche pas Dieu selon les principes. Ça veut dire que si j'ai de l'amertume dans mon cœur, si j'ai quelque chose qui n'est pas réglé vis-à-vis de quelqu'un d'autre, et qu'il est ma responsabilité de régler ça, ben, je ne fonctionne pas selon les principes de Dieu et ce qu'il a établi dans l'alliance. Donc, je dois régler tout ça avant de m'approcher pour la prière, pour la communion avec Dieu. Donc on ne se précipite pas dans cette intimité. On s'y prépare, on lit la Bible, on connaît toute la Bible, parce que bon, je sais qu'au début, bon, c'est beaucoup, hein. Mais je vous encourage réellement à connaître toute la parole, parce que dans toute la parole, vous avez toute la vérité que Dieu veut nous révéler. Alors les apôtres, si je vous montre, je sais parfois c'est difficile l'Ancien Testament. Alors, bon, ça c'est l'Ancien Testament et ça c'est le Nouveau. Donc vous voyez que vous manquez un petit bout si vous ne lisez pas l'Ancien Testament. Et il y a beaucoup de choses établies dans l'Ancien, des principes qui sont révélés plus profondément dans le Nouveau. Mais on n'a pas la compréhension profonde si on ne lit que ça, d'accord? Et là, vous avez vraiment aussi, au niveau historique, vous avez un temps très court, et là, vous avez des centaines d'années. Vous voyez l'œuvre de Dieu pendant pendant des millénaires presque. Ouais, parce qu'au début, Genèse, c'est vraiment il y a longtemps. Donc, c'est important pour saisir comment Dieu agit et dans l'histoire, et comment il a établi un peu à la fois la révélation qui est venue pleinement en Jésus-Christ. Mais les apôtres, leur Bible, c'était ça. Hein? Ils ont écrit ça. Ils ont été inspirés d'écrire ça. Mais ce qu'ils avaient déjà écrit, c'était ça. Donc, c'est important de savoir ça. Ça nous évitera de tomber dans certaines interprétations qui ne prennent pas en compte toute la Bible. Donc la prière, donc c'est cette intimité, cette conversation avec Dieu, selon les principes établis par Dieu. Donc nous approchons par la foi, avec confiance dans l'œuvre de la croix et en union avec Jésus. Donc je vous invite à trouver le verset Jean chapitre 15, verset 7. Bon, là aussi, c'est un verset. Ce que j'aime vraiment, Dieu, il lit des choses avec des mots simples, mais quand on creuse, quand on médite, on dit, oh, que c'est profond. Il y a énormément de choses. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Alors, moi, j'ai lu tout un livre là-dessus. Enfin, il y a quelqu'un qui a pris ce verset et il a écrit tout un livre uniquement sur ce verset-là, pour la prière, sur la prière. Alors, je vous encourage à méditer ce verset. Si vous demeurez unis à moi, donc voilà, il y a l'alliance, que mes paroles demeurent en vous, donc il y a, voilà, l'enseignement, les principes. Demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Donc peut-être nous sommes parfois déçus parce que nous n'avons pas procédé par les bonnes étapes. Donc n'oublions pas cette brise du soir, la voix douce. Il faut entendre d'abord ça avant de savoir ce qui convient de prier. Je pense que moi, comme vous, parfois on se précipite un peu trop vite au lieu de prendre le temps de rentrer, voilà, comme il faut. Et quelque chose que je fais beaucoup, c'est, j'ai fait beaucoup et je fais moins, mais ça me manque, la louange. Parce que la louange nous met en accord avec Dieu et on médite sa parole, en fait. La louange, souvent, c'est la parole, voilà. Et on proclame les vérités. Ça fait partie de cette préparation pour recevoir ce que Dieu veut nous dire. Alors, selon ces directives, il y a deux parties de ça. Donc, selon les directives, bon, c'est les principes qui sont là. Mais aussi, Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Si nous avions que ça, je vais vous dire honnêtement, ça ne suffit pas. Vous allez dire, oh, c'est pas une bonne protestante. Si. je suis très attachée à la parole de Dieu. Mais Dieu m'a dit il y a très très longtemps, c'est la parole avec l'esprit. Donc si vous avez que la parole écrite, vous n'avez pas l'esprit, c'est comme vous essayez de travailler avec une seule main. Dieu ne veut pas qu'on travaille avec une seule main. On a deux mains. On a la Bible, la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. L'esprit qui a inspiré cette parole nous parle toujours, il est vivant. Et si vous voulez, souffle, brise, ça parle de l'esprit aussi. Parce que le mot en hébreu, c'est le même. Esprit, souffle, c'est le même mot. Donc si vous imaginez l'Esprit Saint, nous savons que c'est une personne, c'est le souffle de Dieu. Alors sur le souffle, la parole est portée. Nous ne pouvons pas imaginer une parole sans souffle quand nous parlons. Ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est la même chose avec Dieu. La parole et le souffle. Ensemble, toujours ensemble. Et là aussi, je crois que, honnêtement, il y a des choses que j'ai entendues. Je dis, oui, mais ces gens-là, ils ont lu que la parole, ils n'ont pas écouté l'Esprit Saint, et donc finalement, ils disent des choses qui ne sont pas cohérentes avec la Bible. Ils croient être complètement cohérents parce qu'ils sont allés avec leur analyse intellectuelle. Non, il faut y aller avec l'Esprit Saint. Si on ne soumet pas notre intellect et nos émotions au Saint-Esprit, nous allons nous planter. Et ça ne veut pas dire que nous n'avons pas à utiliser notre intellect, et ça ne veut pas dire que nous n'avons pas à être des gens avec des émotions. Dieu nous a créés comme ça. Elles sont valables, soumises au Saint-Esprit. Donc voilà. c'est merveilleux quand on voit tout ensemble. Parce que je crois que la compassion, la miséricorde de Dieu, à la bienveillance, on voit vraiment toutes ces choses ensemble. Intellectuellement, on voit un problème, émotionnellement on le ressent et spirituellement ben Dieu donne la ressource, c'est la réponse. Mais si on n'avait pas les émotions, je pense qu'on n'aura pas non plus cette capacité de bienveillance. Mais elle va au-delà. La capacité d'être bienveillant va au-delà de nos émotions, notre intellect, parce que nous serons vite épuisés avec ces ressources-là. Donc, comme je disais, voilà notre plan de base, là, en union avec Christ, en portant nous sa parole, et avec l'aide du Saint-Esprit. Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. Et je pense qu'il y a quelque chose là dans le dernier chant aussi avec le, il y a un moment où on chante sans parole dans ce chant. Et Mais moi, je pense, enfin, je sais pas pour vous, mais dans cela, je capte vraiment un appel, un désir qui est là aussi. Nous savons en effet que maintenant encore la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Donc, c'est vrai, nous sommes encore dans cette période où nous appelons, disons, Saint-Esprit, Dieu, viens, vraiment, viens, viens. Et je pense dans ce chant, l'introduction, la fin, moi, je sens que c'est un peu le cœur de l'Église qui aimait cette souffrance, ce désir aussi profond de la présence de l'époux pleinement. Quand nous allons voir toutes les choses réglées, il n'y aura plus de détresse. C'est une prière aussi. C'est une prière sans parole. Et parfois on arrive à mettre certaines paroles. Ça c'est le verset 22. Et ça m'a frappé quand on a pris ce chant. Vraiment que ça rejoint cette partie de l'intercession, de la prière de l'Église, de notre prière personnelle. Donc si ça fait partie de nous, c'est bon. Alors versets 26 et 27. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Alors là, c'est la prière la plus profonde peut-être. Cette intimité où l'Esprit Saint porte les prières que nous pouvons même peut-être pas exprimer, mais il les porte devant le trône de Dieu et elles sont reçues. Je pense que si nous arrivons à vraiment vivre ces choses, ou les vivre en comprenant et en faisant confiance à Dieu, ça va vraiment libérer notre désir d'intercéder, notre désir de prier. Parce que finalement, ce désir d'être uni avec Jésus, il l'a mis en nous, profondément. Quand nous sommes nés de nouveau, quand nous recevons l'Esprit Saint, il y a quelque chose en nous qui dit, je veux être plus près de Dieu. Je veux retrouver cette communion intime avec lui. Et pour ça, pour moi, ça c'est le fondement de la prière. Après, bien sûr, il y a toutes sortes de prières, intercessions. Moi, ce que je fais là, c'est une introduction à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais j'avais vraiment cœur ça ce matin. Juste une introduction. Voilà, c'est tout. Je ne prétends pas d'avoir fait tout le tour du sujet. Mais vraiment, j'ai vraiment aussi à vous encourager. La prière, c'est une aventure aussi. Parce que Dieu, il est plus grand que nous. Et quand nous rentrons dans l'intimité avec Dieu, nous sommes en train de découvrir qui est Dieu. Alors donc chaque fois, pour nous, ça va être une aventure, parce qu'on va découvrir encore et encore autre chose sur lui, en réalité. Pas juste les connaître ici, mais on va vraiment les connaître et les vivre. Et ça, c'est toujours, pour moi, c'est toujours une aventure. Et comment Dieu voit les choses, comment il voit les personnes, comment il voit les situations, oh, bon, il m'épate. Quand vraiment je me mets à son écoute, je dis, ah bon, c'est comme ça. Parce que moi-même, j'aurais jamais pensé comme ça. Alors, il me change. Il me fait découvrir les choses. Vraiment, pour moi, c'est un grand privilège et c'est peut-être la meilleure chose, à part la louange, dans la vie chrétienne. C'est vraiment la louange. Pour moi, et la prière, c'est des choses vraiment merveilleuses. Et nous avons, voilà, tout ça devant nous. Tout ça devant nous, toute notre vie, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Voilà. Donc je vous fais faux bon mardi, mais c'est parce que je suis à Douvres, mais sinon je vais être là pour tous les temps de prière ensemble. Voilà. Parce que ça, j'ai pas parlé encore de la prière ensemble, mais ça c'est la prière en général. Mais il y a aussi des choses à dire sur la prière ensemble. Mais par la suite, je vais commencer à creuser ce sujet. Voilà. Et le but de prière, j'ai presque oublié. Éphésiens 2, verset 2, si je le dis, je l'ai déjà dit un peu. Il a dit à Abraham, et c'est Paul qui le redit. J'ai quand même utilisé Éphésiens, je l'avais relu deux fois, donc je vais quand même m'en servir. Éphésiens 2, versets 15 et 16. Quel est le dessein de Dieu? Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Voilà, ça c'est le plan de Dieu, de tout réunir en Jésus-Christ et tout soumettre à Jésus. Donc nous sommes en marche vers cela et réunir les deux peuples, les juifs et les non-juifs, en Jésus-Christ. Donc nos prières aussi sont dans ce contexte-là, dans ce plan de Dieu, pour faire avancer ce plan de réunir les personnes de toutes les tribus, de toutes les nations avec lui.